Dans la Agada, il y a un moment, il y a la liste des Dayenu. Dayenu, c'est donc construit sur Day, qui veut dire suffit. Dayenu, cela nous aurait suffi. Alors, il y a toute une liste. Alors, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment il faut comprendre ça. Mais je crois que c'est très simple. C'est pas du tout que, évidemment, on n'aurait pas pu imaginer qu'Hachem nous amène au pied du Sinaï et regarder la belle montagne et puis on continue, quoi. C'est pas l'office du tourisme qui vous promène. Mais, en fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu sous forme de quasi-miracles qui auraient très bien pu se présenter comme si, comme quelque chose de quasiment naturel. On aurait pu très bien se débrouiller pour que ça se passe assez normalement, si vous voulez, sans qu'on ait besoin d'avoir recours à un miracle. Mais comme Hachem a fait dans toutes ces situations, il a manifesté effectivement son amour pour le clan Israël dans toutes ces situations-là. Alors, ce que nous disons, c'est que chacune de ces situations, à elle toute seule, aurait déjà mérité qu'on en fasse une fête, si vous voulez. Qu'on soit éperdument reconnaissant à Hachem pour chacune de ces choses. Et en fait, ensuite, à la fin de ce Dayenu, il y a un texte qui les récapitule toutes ces situations. Et on dit « Alachad kama ve kama » à plus forte raison, effectivement, puisque maintenant on a tout cela, on a une dette de reconnaissance absolument énorme à l'égard d'Hachem. Et c'est pas qu'on aurait pu se suffire d'une seule d'entre elles et que rien ne serait passé, rien d'autre ne serait passé, c'est pas de ça qu'on parle. Bien sûr. On ne veut pas dire ici qu'on aurait pu se passer de Matan Torah, on aurait pu se passer du Shabbat, on aurait pu. Bien sûr que non. Mais ça aurait pu être donné de façon non miraculeuse, si vous voulez. Alors maintenant, je veux juste m'arrêter sur deux d'entre ces phrases. Ilu kara lanu et ayam, velo eviranu betocho becharava dayenu. Ilu kervanu lifnei har sinai, velo natan lanu et haTorah dayenu. Si il n'avait que fendre la mer et nous permettre d'y passer à pied sec, comment? Déjà là, on aurait eu une dette de reconnaissance absolument extraordinaire. Et de même, s'il nous avait amené au Sinaï, et qu'il ne nous ait pas donné la Torah, là aussi, on aurait eu une dette extraordinaire. Alors, il se trouve que dans ces deux événements, en fait, dans une situation fondamentale, les Bnei Israël ont bénéficié de ce qu'on appelle Gilui Shrina, un dévoilement de la présence divine à ce moment-là. Quand la mer s'est fendue, Yadou Israël, les Bnei Israël ont vu très clairement, ils ont dit Zekeli Ve'anveu. Celui qui est en train de fendre la mer ici, c'est notre Dieu. Ils l'ont en quelque sorte montré du doigt, si on peut parler comme ça. Et les Chachamim disent de cette reconnaissance que Ra'ata Shifra Alayam, Marshelo Ra'ay, Cheskel Enbuzi, Peshar Anvim. Ça veut dire que n'importe quelle servante qui était en train de passer la mer, elle en a vu plus que le prophète Ézéchiel et que tous les autres prophètes n'en ont vu. Ce Ruach HaKodesh, cette inspiration prophétique qui a eu lieu à ce moment-là, c'est ça, c'est en fait ce qui les a amenés à cette élévation où ils ont dit Shira, où ils se sont mis à chanter le fameux cantique du passage de la mer. Il est venu de ce qu'ils avaient vu à ce moment-là. On s'est marqué dans un midrash, il y a le Kuchimoni, qui dit « Ranenu tzadikim ba'Hashem, les tzadikim exultent. On dit, ça c'est le verset, Ranu tzadikim el Hashem, c'est pas marqué, ils ont exulté au sens où ils ont sauté vers lui en fait. Et là, ba Hashem, en Hashem en quelque sorte. C'est-à-dire, bizman shem roim oto, quand ils l'ont vu, immédiatement ils se sont mis à exulter en fait. On trouve aussi le verset qui dit « Vayar Israël et Ayad Agdola » Israël a vu la grande main, ils ont vu cette grande manifestation de la puissance d'Hachem. À ce moment-là, c'est marqué « Az Yashir Moshe ». À ce moment-là, Moshe et donc et tous les Bnei Israël se sont mis à chanter. De la même manière, par rapport à la strophe qui parle du Har Sinaï, qui nous a amenés au pied du Sinaï, Hazal disent, dans la Gemara, dans le Shabbat, c'est marqué, Vaikiatsfu betartit ha'ar. Les Bnei Israël se sont tenus au pied de la montagne. Et on apprend de là, Melamed shekafa akadosh baruch hu aleihem har kegigit, c'est de là qu'on apprend qu'Hachem a retourné au-dessus de la montagne comme une ruche. Ve'amar lahem, et il leur a dit, Imatem mekablim alechem. Et ta Torah, si vous acceptez la Torah, c'est bien. Et sinon, Shamte Kvoatrem, c'est là que sera votre tombe. Vous mourrez là. Les gens ont l'habitude de s'imaginer qu'on a une énorme montagne, qu'Hachem aurait tenu quasiment au-dessus d'eux et menaçant de la laisser tomber sur eux. Le Meshech Chochma, il a dit quelque chose de tout à fait différent. Il a illuminé en fait. Il a dit que cette obligation qui a été faite au Bnei Israël, elle était, comme il dit, Asfaklaria Meira, c'est-à-dire, on a vu très très clairement les choses. Il dit Kafa alem har kegigit, ça veut dire Era lahem kvod Hashem beakitz ou beitgalut nifla. Il leur a montré la gloire divine et ils l'ont vu tout en restant éveillés. Vous vous souvenez de ce qu'on dit dans le Shiurim du Derech Hashem, que les prophètes, en fait, à l'exception de Moshe Rabbeinu, ils n'ont jamais de prophétie tout en étant encore éveillés. Admamash Boutla Bechiratam Ativit, au point que leur capacité de choix, c'est-à-dire de dire non, par exemple, naturel, a disparu. Viatsa Nishmatam Mersagat Kvod Hashem, quasiment leur âme s'est quasiment envolée quand ils ont vu cette gloire divine, et ils étaient obligés. Ils étaient à ce moment-là comme des malachim, ils ne peuvent pas faire autrement. Veraou ki kol ki umam shel anivraim talou irak ve kabbalat haTorah. Ils ont compris que l'existence même de toutes les créatures dépendait de cette acceptation de la Torah. Et c'est ça qui, c'est ces situations-là de dévoilement qui ont entraîné les louanges qui ont été dites, qui ont mérité une louange pour soi et une reconnaissance pour soi. Mais évidemment, on peut poser la question, mais peut-être que on pourrait parler du don de la Torah de la manière suivante. On pourrait dire, ilu lo natan lanu et haTorah dayenu. On aurait pu dire simplement, s'il ne nous avait pas donné la Torah, cela nous aurait suffi. Pourquoi est-ce que le don de la Torah est précédé par s'il nous avait amené au pied du Sinaï et ne nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Dit seulement, Iloul, en attendant la Torah. Qu'est-ce que ça change qu'on est, qu'il nous ait préalablement amené au pied du Sinaï? Ah non? Effectivement. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on peut penser qu'on pourrait, on aurait pu se passer de la Torah? Bien entendu, on n'aurait pas pu, comme je vous ai dit au début, bien sûr qu'on ne pourrait pas se passer de la Torah. Dans le Dayenu, on veut dire ici, c'est toujours que dans chacune de ces fameuses Tovot, chaque fois qu'Hachem nous a fait une de ces choses-là, à elle toute seule, elle méritait une infinie gratitude, en fait, et une louange pour soi. On ne voulait pas du tout ne pas avoir, ne pas bénéficier de ces tovot. Bien sûr qu'on les voulait. Mais on ne pouvait pas, on n'aurait pas pu dire de façon plus concise, simplement par rapport à la Torah, et s'il ne nous avait pas donné la Torah, d'ailleurs. La réflexion sur, effectivement, pourquoi le Paitan, pourquoi le poète qui a composé ce texte-là, pourquoi est-ce qu'il a pensé qu'il fallait mettre Kervan Olifner Sinai, Velo Natan Lanota Torah? Parce que dans Matan Torah, en plus de ce que les Bnei Israël, à cause de cette acceptation, sont astreints aux mitzvot, mais quelque chose de un changement radical dans la forme du monde a eu lieu à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce flux divin, en fait. À ce moment-là, qui est venu du ciel, si on peut parler comme ça, qui vient de la Kdusha de la Torah, et ça a été déversé sur la terre. Et du coup, la puissance de la maîtrise de la Torah n'était plus au ciel, en fait. Elle a été, cette puissance-là, être maître de la Torah, c'est ça que les anges refusaient à Moshe Rabbeinu, ça a été donné aux hommes. Et ce changement-là, c'est ce qui a donc mis en colère, si on veut parler comme ça, les anges. Cette Kedusha qui a été déversée sur la terre à ce moment-là, elle a une expression très claire, très pointue dans la halakha, que Ikar Mashma Shel Mesirat HaTorah l'Israël, où comment est-ce que ça se traduit que la Torah est maintenant aux mains d'Israël, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes Dorshin ou Mefarshim la Torah. C'est nous qui interprétons, c'est nous qui déduisons les choses de la Torah, c'est nous qui tranchons les doutes dans l'explication et les définitions de la Torah. C'est ça qui nous a été donné, en quelque sorte. Donc, les chachamim de la Torah ont tracé le chemin, en fait, et aux yeux de tout le peuple, à ce moment-là, la vérité de la Torah, ces paroles qui sont exprimées à ce moment-là, qui sont par exemple l'exemple typique de cette situation-là, c'est la fameuse histoire du tanour chez l'Achnaï. Vous savez, tout le monde connaît cette histoire, qu'il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Si la halakha était comme Rabbi Eliezer ou bien comme les Chachamim au sujet de savoir si un certain four était impur, recevait l'impureté ou pas, ou il gardait son impureté ou pas. Et comme vous savez, min ha-shamayim, du ciel, on a manifesté que la halakha était comme Rabbi Eliezer. Il y a eu un bas de col, un écho là qui est venu, qui a dit « Qu'est-ce que vous embêtez Rabbi Eliezer ? La halakha est comme lui partout. » Et là-bas c'est Amad Rabbi Yoshua al-Raglav, venu. Rabbi Yoshua s'est levé et il a dit « Lo b'shamayim li. » La Torah n'est plus au ciel, n'est pas au ciel. C'est pas le ciel qui va décider des choses, c'est nous. Et nous, majoritairement, on a voté contre Rabbi Eliezer. Donc le ciel, il peut bien se manifester comme il veut, en montrant que la halakha est comme Rabbi Eliezer, ça nous fait ni chaud ni froid, c'est nous qui décidons. C'est ça qui a été donné au Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire, la Torah n'est plus au ciel? Le Rabbi Yirmiyah dit, « Shekvar nitna Torah me'ar Sinaï. » La Torah, on l'a déjà reçue au Sinaï. Et donc, maintenant, on ne s'occupe plus d'un bas de col. On peut envoyer tous les échos, toutes les voix célestes. Parce que dans le Sinaï, c'est marqué, de ce qu'on a reçu au Sinaï, c'est « Acharei Rabim Lehatot ». Ça veut dire, on décide en fonction de la majorité. La Gemara continue, elle dit, Rabbi Nathan, qui était là-bas, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Le prophète Eliyahu, il lui a dit, qu'est-ce que Hachem fait maintenant? Ça intéresse, quoi, c'est intéressant, quoi, c'est une question, qu'est-ce que Hachem fait? Je pense que Eliyahu Hanavi sait, donc il lui demande, pour sa culture générale. Eliyahu Hanavi lui a dit, maintenant, il dit « Nitzchouni banaï, Nitzchouni ». Maintenant, il dit « Mes enfants m'ont vaincu ». C'est-à-dire, lui, enfin, si vous parlez comme ça, Hachem a dit « L'Allah est comme Rabbi Eliezer » et les Bnei Israël, sous la direction de Rabbi Yoshua, ils ont dit « L'Allah n'est plus au ciel, c'est nous qui décidons et nous on décide autrement que le ciel ». On a quelque chose d'un peu analogue. C'est marqué que, à la suite du décès de Moshe Rabbeinu, on a oublié 3000 halakhot. Alors les Bnei Israël se sont tournés vers Yoshua et lui ont dit, eh bien, interroge Hachem, comme le faisait Moshe Rabbeinu. Il leur a dit, mais il leur a répondu, non, je ne peux plus. L'homme à chemin, il dit, je ne peux pas interroger Hachem. Ça, c'était quelque chose que Moshe Rabbeinu pouvait faire, moi, je ne peux plus. On ne peut plus après Moshe. Donc cette force extraordinaire qui a été donnée aux humains, si vous voulez, de décider la Torah. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est les rabbins qui décident. Oui, c'est vrai, c'est les rabbins qui décident. Ils sont sûrement inspirés, mais c'est eux qui décident, c'est nous qui décidons. Et contre le ciel, dit la Gemara. Le ciel, il peut faire pencher les murs, faire que les ruisseaux retournent vers leurs sources, etc., et que changer le monde, ça ne nous impressionne pas. C'est nous qui décidons. C'est ça que les malachim, quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais ma enosh qui tiskerenu. Qu'est-ce que c'est que cet homme pour que tu t'en soucies? Les anges savaient bien que ceux qui devaient agir dans le monde, c'était les hommes. Mais ils pensaient que la ba'alout sur la Torah, être le maître de la Torah, ça ils pensaient que c'était eux. La Torah, elle allait venir du ciel. Du ciel, on allait nous dire, faites comme ça. Bien sûr que c'est les hommes qui allaient faire. C'est ça que les malachim disaient, mais On a été dépossédé. Et ce flux-là qui est venu au Sinaï, qui est revenu au Sinaï, c'est ça. On a expérimenté ce flux descendant qui nous a donné la baalout, le fait d'être propriétaire. Nous sommes les maîtres de la Torah. Et c'est ça qu'il dit. Ilu kervanu lifnei har Sinai velo natan lanu et la Torah. C'est-à-dire, ilu zachinu lekabel Torah. Si nous avions reçu la Torah d'Hachem, avec les 613 mitzvot, et même si c'était extraordinaire, et la Torah aurait été la nôtre, ça aurait déjà suffi. D'accord ? Hachem aurait très bien pu ne pas nous donner la baalout de la Torah. C'est-à-dire, quand on dit Ilu kervanu lifnei har Sinai velo natan lanu et la Torah, c'est pas que s'il nous avait amené au Sinaï, il ne nous avait pas donné les mitzvot, les tariag mitzvot et la Torah. Non. S'il nous avait amené au Sinaï, et qu'il ne nous ait pas donné la baalout, la maîtrise de la Torah, que nous soyons en position de décider les choses de la Torah, on a un doute, c'est fini. On ne va pas interroger Hachem pour demander ce qu'il faut faire. Parce que Yoshua a dit, je ne peux plus maintenant. Ça, c'était l'époque de Moshe Rabbeinu. C'était autre chose, un autre monde. On n'est plus dans ce monde-là. Plus personne ne peut interroger le ciel pour savoir ce qu'il faut faire. On a un problème, on doit voter. On votera si, et on ira d'après la majorité. C'est-à-dire les hommes vont décider entre eux. C'est ça la nouveauté, si vous voulez. Il faut bien laisser résonner en soi. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir un don de la Torah sans problème. On a reçu la Torah, très bien. Si vous voulez, il y a cette version un peu plus... un peu plus connue, si vous voulez. C'est que quand Moshe Rabbeinu a donné, vous vous souvenez, on a déjà parlé de ça, quand Moshe Rabbeinu, au moment de... quand il a senti qu'il allait disparaître, il a écrit le Sefer Torah, et il l'a donné à la tribu de Lévi. Il y a eu mobilisation générale, toutes les tribus ont protesté. Il n'est pas question que tu donnes la Torah à la tribu de Lévi. Quel était le problème? Le problème, c'était évidemment pas que les gens de la tribu de Lévi allaient dire que la Torah ne les concernait qu'eux. La Torah, c'est marqué d'Aberel Bnei Israël, c'est pas marqué d'Aberel Bnei Lévi uniquement. Donc évidemment, ça concerne les Bnei Israël. Mais qui allait décider? Qui allait étudier la Torah et fixer la halakha? Ceux qui avaient le Sefer Torah, c'est-à-dire la tribu de Lévi. On aurait une situation, si vous voulez, un peu l'Avdil et l'Efavdalot, comme les prêtres qui décidaient, les prêtres idolâtres, qui disaient au peuple, voilà ce que vous devez faire. Voilà, ce serait, la tribu de Lévi aurait dit aux autres, voilà ce que vous devez faire. Les Bnei Israël ont dit, pas question. Nous, on veut être aussi de ceux qui vont décider ce qu'on va faire. Nous aussi, on veut étudier la Torah et à partir de cette étude, fabriquer la halakha. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a dit, « Ah, ça fait 40 ans que j'attends que vous compreniez quelque chose de la Torah. » C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas compris cette idée que nous sommes les maîtres de la Torah, on n'a rien compris à la Torah. Parce qu'à ce moment-là, si nous ne sommes pas les maîtres de la Torah, si tout le peuple d'Israël n'est pas le maître de la Torah, alors, la Torah, c'est comme un autre code, si vous voulez. N'importe quel code qui serait donné à des prêtres, à des responsables, à une élite, à une aristocratie, peu importe, qui va décider et qui va dire au peuple, faites les choses comme ça. Donc, c'est cette maîtrise de la Torah. On va décider et le monde va être changé par nos décisions. Et ça ne nous dérangeait pas. que Rashi dise comme ça, et que les gens autour de Rashi se comportaient de cette manière-là, et qu'autour de son petit-fils, Rabbeinu Tam, sur certaines choses, on disait autrement et on se comportait différemment. Bien sûr, personne n'allait dire que on pouvait manger du renard et que qu'on pouvait faire le Shabbat vendredi, dimanche ou un autre jour de la semaine. Mais sur des points néanmoins importants, d'accord, ne serait-ce que par exemple la façon de... ça ne me concerne pas, mais comment on arrange les parchiotes de la Torah, les quatre parchiotes dans les tefilines, Rabbeinu Tam, il ne fait pas comme son grand-père. Il ne les arrange pas de la même manière. Il y a un ordre, lui il a un autre ordre. Et ça ne dérange pas, c'est son grand-père. Et lui, il est arrivé dans son étude à une conclusion différente. Alors il fait comme. Et il enseigne, et des gens le suivent, qui ne suivront pas Rashi. Indépendamment du fait qu'il y a l'autorité du grand-père. C'est juste un exemple. Ça, qu'il faut, ça, c'est un point qui est très important. Comprendre, c'est ça, Matan Torah. Et en vérité, c'est marqué qu'ils ont accepté la Torah, mais justement, ce qu'ils ont accepté, qu'ils ne voulaient pas accepter, qu'ils n'auraient pas accepté s'il n'y avait pas eu la contrainte, c'est évidemment la Torah orale. Parce que la Torah écrite, ils l'ont acceptée, parce qu'il n'y avait pas à discuter sur la Torah écrite. Tout le monde dit, bon, d'accord, c'est ça. Mais la Torah orale, c'est ce qu'on va justement fabriquer. C'est ce qu'on va déduire de cette Torah écrite. C'est ça que les Bnei Israël ne voulaient pas accepter, et qu'ils n'auraient pas accepté si Hachem n'avait pas menacé avec la montagne. Maintenant, je répète ce que j'ai déjà dit 100 fois, que la montagne qu'on a mise sur la tête des Bnei Israël pour leur faire peur, c'est pas qu'ils allaient être écrasés par la montagne. D'accord ? La montagne, on n'avait pas besoin de dire que la montagne était comme une ruche. Qu'est-ce qu'on veut dire ? C'était cru à l'intérieur. Ce qu'Hachem a montré au Bnei Israël, c'est, voilà, vous prenez un verre, d'accord ? Vous le videz d'abord, et après vous le retournez. Voilà. Ça voulait dire quoi? Quand il a dit ici, vous serez enterré. Ça veut dire votre horizon, ce sera les limites de la montagne. Le verre en question, c'est l'horizon de la mouche qui est dans le verre. Vous avez fait prisonnière une mouche. Elle n'est pas écrasée par le verre en question. Mais son horizon est limité, son oxygène aussi, elle va finir par mourir. Et c'est ce qu'Hachem a dit au Bnei Israël. Si vous n'acceptez pas la Torah orale, vous allez mourir comme les mouches meurent. C'est-à-dire que vous allez avoir un horizon limité, un oxygène limité, si vous voulez, même si vous ne voulez pas, et vous allez en mourir. Vous serez enterré là toute votre vie. Et donc la Torah, contrairement à ce que bien des gens pensent, elle ouvre l'horizon. Si on n'avait pas la Torah orale, l'horizon serait fermé. C'est ça qu'Hachem a dit. Donc ce n'est pas une punition, n'importe quelle punition, on aurait pu le priver de chocolat. Non. L'image de la montagne ici, c'est fondamental, parce que c'est vraiment quelque chose qui montre la limite, l'horizon limité, l'oxygène limité, enfin toutes ces limitations en fait, qu'il y a s'il n'y a pas de Torah orale. S'il n'y a pas de Torah orale, alors ça donne... ce que vous pouvez vous imaginer. C'est quelque chose de fermé complètement, et la Torah, c'est justement l'ouverture. Hachem me dit, si vous n'acceptez pas la Torah, ce sera fermé.
Excusez-moi. Peut-être que c'est la même chose. Léaville, si qu'on prend juste par exemple l'exemple de Rabbeinu Tam, est-ce que lorsque Rabbeinu Tam dit voilà comment on arrange les téfilines, et pas comme Rashi, est-ce qu'il dit c'est ça que disait la Torah, et donc Rashi n'a pas fait vraiment.
Non, il dit c'est ce que moi je comprends dans la Torah.
C'est ce que moi je comprends. Mais la question c'est est-ce que quand des décisions nouvelles sont prises, etc., qui ne sont pas juste des applications comme l'électricité appliquée, tirée de est-ce qu'on le fera par rapport au feu, au circuit, etc., mais quand il s'agit bel et bien en réalité de faire le contraire de ce qui a été dit, le contraire vraiment, ou en tout cas quelque chose de très différent, est-ce qu'il est dit. Je suis dans une continuité et il y a le fameux l'un et l'autre sont les vérités d'Hachem, ou est-ce qu'ils disent il y a eu une erreur ou un manque
non, ici il n'y a pas une
erreur. Ils disent en fait qu'il y a une continuité. C'est-à-dire qu'en fait, ça dérive toujours de Torah Mishnah, mais dans une Torah qui laisse la place pour différentes pensées, quand bien même elle dirait éventuellement parfois le contraire ou en tout cas des choses très différentes. Oui. Les deux sont. Mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qui reste quels sont finalement les principes qui resteraient en fonction de ça? Est-ce que c'est uniquement au niveau du massé parce qu'il s'agit uniquement d'interprétation qui vise la halakha?
Non, mais c'est aussi une discussion comme celle. Enfin, la grande discussion, c'est Beit Shammai et Beit Hillel, c'est deux façons de voir le monde.
Et maintenant, alors la question, c'est est-ce qu'on n'est pas redevenu des mouches dans le bocal? Parce que le problème, c'est que, si je ne me trompe, depuis, j'oublie toujours depuis quand, mais on considère que plus personne n'a le niveau pour prendre des décisions. Et en même temps, certaines décisions ont été prises en application pour la halakha, justement avec toutes les questions qui se posent dans la modalité, mais en même temps, il est dit qu'on ne peut plus prendre des décisions à la majorité, que les. Je ne sais plus comment ça a été dit, mais je l'ai entendu.
Ça dépend dans quoi, dans quel domaine. Il y a effectivement des choses, aujourd'hui, depuis le Shulchan Aruch, si vous voulez, certaines choses. Les gens ont eu peur, ils se sont sentis incapables de décider, et donc ils s'en sont remis à la décision de Rabbi Yosef Karo ou de Rabbi Moshe Isserles. Et c'est comme si Rabbi Moshe Isserles ou Rabbi Yosef Karo étaient ce qu'on appelle Morei d'Atra. Avant, dans une ville, les villes étaient beaucoup plus petites, il y avait un rav. Il était le rave de la ville, et c'est lui qui décidait, bon, c'est lui qui disait si le mikvé est caché comme ça, si la shrita de la bête avec tel ou tel problème, ça reste caché, etc. C'est lui qui tranchait toutes les questions. Et donc on pouvait avoir des villes même voisines où on tranchait de façon différente. Mais c'était souvent. En même temps, une façon différente de voir le monde. C'est très connu, par exemple, que le Nodam Yehuda à Prague, ou Ramoshe Sofer, le Khatam Sofer à Presbourg, ils avaient deux façons différentes, ils vivaient en même temps, et ils avaient deux façons différentes d'appréhender le monde. Et donc, leurs décisions étaient différentes sous pas mal de points. L'un était plus sévère que l'autre, dans certains points, etc. Vous avez aussi aujourd'hui encore des discussions. Il y avait des discussions entre Rav Eliashiv et Rav Moshe Feinstein, par exemple, ou Rav Shlomo Zalman Auerbach, etc. Il y a quelques-unes qui sont assez célèbres. Ah, bien sûr, ça. C'était sur des questions de Shabbat, par exemple, le Bishul Shabbat. C'est pas rien du tout, mais effectivement, ils pensaient que ce n'était pas d'accord. Et chacun avait évidemment des arguments très sérieux, ils n'étaient pas d'accord, mais ils se respectaient, bon, parce que toi t'es arrivé à. À partir du moment où la chose est construite selon les règles de la Torah, alors bon, tu es arrivé à cette conclusion. C'est comme ça. Alors, il y a des maîtres qui considèrent que, eux, s'ils arrivent à une certaine décision, mais. Il y a un maître plus grand, et bon, il s'écrase. Je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de monde qui allait dire autrement que Rav Eliashiv. Mais enfin bon, on ne peut pas dire comme ça. Par exemple, si vous voulez un exemple, sur le lactose, est-ce que le lactose, c'est halavi ou pas? C'est une question. Dans la Gemara, ça s'appelle mei halav. C'est une machloket. Est-ce qu'on considère le lactose? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a du lactose pratiquement partout. En particulier dans plein de médicaments. Alors, est-ce que vous pouvez prendre vos médicaments qui ont du lactose juste après le repas de viande, ou est-ce qu'il faut se débrouiller pour les prendre avant? Alors Rav Eliashiv, il permet. Il dit que le lactose, ce n'est pas considéré comme du lait. Mais Rav Guggenheim, il pense que c'est du lait. Rav Guggenheim, il interdit le lactose. C'est-à-dire, il le considère comme du lait. Pourtant, c'est sûr qu'il n'y a pas de commune mesure. Rav Guggenheim, il ne pense pas qu'il est comparable à Rav Eliashiv, mais lui, il est arrivé à la conclusion que le lactose, c'est du lait. Et voilà, il l'a dit ouvertement. Et c'est comme ça, si on lui pose une question, il dira comme ça. Mais tout le monde sait que si on demandait à Rav Eliashiv, c'est écrit aussi, eh ben, il a dit que ce n'est pas du lactose. Et pourtant, voilà, c'est tout. Donc,
effectivement, sur tous les produits avec lactose, dans les fameux trucs du Begin, etc., c'est que ça t'a dit, je ne savais même pas qu'il y avait cette...
Vous ne savais pas que ça
devait être du lait. Je
considère que
vraiment, le lactose, c'est le truc...
Ça, c'est du lait. Je considère qu'on doit être marmir comme si c'était du lait. Bien. Il y a une grande chose aussi dont on n'a pas encore parlé, en tout cas pas cette année. C'est marqué dans la Haggadah, « V'chol dor vador » dans chaque génération, « Hayav adam lirot et atzmo keilu hu yatsa mimitzrayim » L'homme doit se considérer comme s'il était sorti, lui, d'Égypte. C'est-à-dire, comme on dit dans la suite, « Lo et avoteinu bilvad gaal akadosh baruch hu » Quand Kadosh Baruch Hu n'a pas délivré que nos ancêtres, et là, otanu gaal imahem, nous aussi, il nous a libérés avec nos ancêtres, en même temps que nos ancêtres. Dans la Haggadah du Rambam, donc dans les Haggadot Sfarad, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué Bechol dor vador chayav adam leharot et atzmo keilu yatsa mimitzrayim. Les Ashkenazim, ils disent l'homme doit se considérer comme s'il était sorti d'Égypte. Et les Sfardim, ils disent l'homme doit manifester comme s'il était sorti d'Égypte. C'est-à-dire, il y a une partie théâtre, si vous voulez, qui existe d'après la Haggadah Sfarad, qui n'existe pas d'après la Haggadah Ashkenaz. D'ailleurs, je ne sais pas, mes enfants, ils sont revenus du Talmud Torah, j'entends ainsi, nous sommes sortis de Mitzrayim, d'accord, avec la matzah sur le dos, etc. Tout ça, c'est Sfarad, en fait. Les Ashkenazim, ils n'ont jamais rêvé de faire ça, de manière-là. Mais bon, mais c'est très bien. Et ils n'ont pas dit qu'on n'a pas le droit, mais on n'est pas obligé, mais les Sfardim sont obligés de faire quelque chose. Les Sfardim, il y avait, je crois, tout un... Dans les gens qui ont l'habitude encore, je crois que les gens, ils se promenaient avec le baluchon, pas seulement les enfants, je crois que les adultes aussi, ils se baladent avec le baluchon dans lequel il y a de la matzah, et puis ils disent, d'où viens-tu? Il y a tout un dialogue qui se fait, comme si, qu'est-ce que tu... d'où tu viens, etc. Je ne l'ai jamais vu complètement fait, j'ai seulement lu. Alors, avant qu'on regarde ça un peu plus en détail, on aura peut-être le temps. Il y a encore une autre différence entre la Sfarad et Ashkenaz, c'est que chez nous ça commence Bechol Yom, Bechol Dor Vador. Dans la Sfarad ça commence ou Bechol Dor Vador. Et le Vav c'est un Vav de liaison, donc ça fait la liaison avec ce qui a été dit avant, mais ça on verra après. Bon, je voulais dire encore une chose. On dit, justement dans le cadre de ce qui est dit ici, qu'Akadosh Baruch Hu nous a libérés nous aussi. Alors, on dit comme ça, que si Hachem ne nous avait pas libérés, Areanu, Baneinu, nous serions encore, nous, nos enfants, nos petits-enfants, Meshubadimainu le Pharo Bemitsraï. Nous serions encore astreints, enfin, esclaves de Pharo en Égypte. Alors, évidemment, cette phrase-là, elle pose problème. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé dans le Nil depuis ce moment-là, et que bon, il y a sûrement eu des changements de dynastie, des changements de régime, etc. Et on aurait très bien pu se libérer, même si on n'avait pas été libéré au temps de Pharaon, on aurait été libéré plus tard. Pour dire que nous et même nos descendants seraient toujours Avadim le Paro, Maputom. Pourquoi dire une chose pareille? Alors, je vous explique pourquoi on dit cette chose-là. Lorsque mon cher Abeinu était devant Paro à l'avant-dernière des Makot, Paro lui a dit: je ne veux plus te voir. Alors, mon cher a dit: ok, tu ne verras plus, je ne viendrai plus. Et évidemment, quand la Maka de Brorot, lorsque la mort des premiers-nés a eu lieu, Paro il a cherché Moshe pour lui demander d'arrêter de prier pour qu'Hachem arrête ce massacre. Alors, il y a un midrash qui dit que Moshe Rabbeinu s'est un peu caché, mais enfin bon, peu importe. Paro l'a trouvé. Et il lui a dit: arrête. Alors Moshe Rabbeinu lui a dit: ok, on va arrêter, mais il faut auparavant, d'abord on ne va pas partir au milieu de la nuit comme des voleurs, on va partir en plein jour. Et deuxièmement, il faut que tu fasses une déclaration par laquelle tu déclares que les Bnei Israël ne sont plus tes esclaves, que tu les libères. Alors, ça faisait un an qu'on ne travaillait plus pour Paro. Durant les Makot qui ont duré 12 mois, on ne travaillait plus pour Paro. Mais formellement, on était encore ses esclaves. Et donc Moshe Rabbeinu a exigé de Paro une déclaration par laquelle il nous libérait. Il disait: les Bnei Israël ne sont plus mes esclaves, ils sont libres. C'est marqué dans le Midrash que Paro, il était assez réticent à faire cette déclaration, et Moshe Rabbeinu lui a dit: ben nous on n'est pas pressés, hein, donc quand tu voudras. Mais bon, il y avait la Makat de Korot qui sévissait, il est vite revenu chez Moshe, il a dit: ok, je fais la déclaration. Et c'est ça qu'on voulait dire. C'est que si jamais on n'était pas sorti de cette manière-là, c'est-à-dire si Paro ne nous, si on a, Moshe n'avait pas obligé Paro à faire cette déclaration-là, nous serions encore formellement les esclaves de Paro. On aurait été transmis de père en fils, etc. Alors je ne sais pas les esclaves de qui on serait aujourd'hui, mais enfin de celui qui serait le descendant de Paro, on serait encore aujourd'hui son esclave. Formellement, on ne serait pas libre. Et en quoi, vous me direz que ça veut bien nous faire qu'on ne soit pas libre à l'égard de quelqu'un qui n'a aucun pouvoir sur nous? Alors il faut savoir que le problème d'être éved, être esclave, nous, en réalité, nous, Bnei Israël, on pourrait dire qu'on n'a fait que changer de maître. Parce qu'on était Avadim le Paro, et maintenant on est devenu Avdei Hachem. Nous sommes devenus les serviteurs, les esclaves d'Hachem. Maintenant, vous savez bien qu'on ne peut pas être esclave de deux personnes en même temps. Deux personnes qui ne sont pas associées. Donc, si on est esclave de l'un, on ne peut pas être esclave de quelqu'un d'autre. Et donc, si on avait été esclave de Paro, on n'aurait pas pu devenir esclave d'Hachem. Donc, tout notre système, tout le fait que nous sommes devenus le peuple d'Hachem parce que nous sommes ses esclaves, tout ça n'aurait pas eu lieu. N'aurait pas pu avoir lieu si nous n'avions pas été libérés de cet esclavage à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, sinon, ben, effectivement, on n'aurait pas pu nous contraindre à travailler, mais même si on était parti, on avait émigré, tout ce que vous voulez, on aurait été formellement encore toujours esclaves de Pharaon. Et donc ça on n'aurait pas pu. On voit cette chose-là, je ne peux pas entrer dans le détail, mais pour celles qui se souviennent de cela, vous vous souvenez, on avait dit que la raison pour laquelle on n'a pas instauré de dire le Hallel à Pourim, c'est parce que le premier verset du Hallel de Pourim, c'est Al-Luka, Al-Lu Avdei Hachem, louez-le, louez Hachem, Avdei Hachem. Et les gens de Perse, nos maîtres en Perse, c'est-à-dire Mordechai, Esther, etc., ont dit, nous ne pouvons pas instaurer un texte dans lequel nous nous présenterions comme étant Avdei Hashem, parce que Akate Avdei Achashverosh Anan, parce que nous sommes encore Avadim d'Achashverosh. Formellement, nous appartenons, nous sommes des sujets d'Achashverosh. On ne peut pas vraiment dire qu'on est libre. Alors bien sûr, il disait le Hallel à Pessah, Shavuot, Sukkot, mais l'instaurer, c'est une autre affaire. Dire les choses, parce qu'on a été, etc., c'est une chose, mais l'instaurer, c'est une autre affaire, et dire, on ne peut pas instaurer cette... on ne peut pas instaurer cela. Donc vous voyez, on ne pouvait pas parce qu'ils considéraient qu'on était esclave. Il n'en faut pas beaucoup, parce que c'est même assez difficile à comprendre pourquoi ils disaient qu'on était esclave d'Achashverosh. La reine, c'était Esther, et le grand vizir qui avait tous les pouvoirs, c'était Mordechai. Et néanmoins, formellement, on était esclave. Ils considéraient qu'on était esclave d'Achashverosh, alors qu'on n'a jamais eu un statut d'esclave. Achashverosh ne nous a jamais acheté, en quelque sorte. Il a hérité, mais comme en plus il était un usurpateur, donc toute cette histoire était... Enfin, formellement, il disait on ne peut pas. Voilà. Juste que vous sachiez que quand on dit qu'on aurait encore été esclaves aujourd'hui, et nous et nos enfants, c'est ça qu'on veut dire. On n'aurait pas pu devenir Eved Hashem. Maintenant, je reviens sur cette notion de Chayav Adam Lirot et Tatsmo, de se voir comme s'il était sorti d'Égypte aujourd'hui. C'est la mitzvah. Plus que les autres mitzvot de la nuit. Et c'est pour cette mitzvah qu'il faut se préparer spirituellement. Et c'est des forces d'âme spéciales. Ici, on nous a ordonné de rafraîchir nos sentiments, en fait, notre sensibilité, au point de Keilu hu yatsa mi mitzray. Comme si on avait expérimenté, nous, dans notre chair, le fait de sortir d'Égypte. Et le Rambam, comme je vous ai dit, il lit Bechol Dor Vador, Chayav Adam Leharot. Et il dit, Keilu hu ba'atzmo yatsa ata, il dit maintenant, il dit clairement le Rambam, comme si lui, l'homme en question, enfin nous, le juif, yatsa ata mishibud mitzrayim, qu'il sortait maintenant de la dépendance de l'esclavage égyptien, le fichar, pour cette raison, le Rambam dit, que chez Soed balayla azé, quand il mange, cette nuit-là, sarich lechol velishtot veu mesav derechirut. C'est la raison pour laquelle il faut manger et boire, appuyé sur le côté, qui était une façon de manifester sa liberté. C'est parce que les gens mangeaient, les gens libres, aisés, ils mangeaient sur des lits d'apparat probablement, et accoudés sur... Oui, c'était, je sais pas, il y a une technique, je pense, de pouvoir être capable de manger alors qu'on est coincé avec un bras. Mais bon, c'est... Les gens qui font ça, ils savent le faire. Kol echad ve'echad, ben anashim ben nashim, donc le Rambam dit, les hommes comme les femmes, chayav lishtot halayla azé, arba kosot shel yain, ça aussi, ça fait partie de la manifestation de la liberté, comme on vient maintenant de se libérer, etc. Mais on ne comprend pas vraiment le lien. On dit Lo et avotenu bilvad gaal akadosh baruch hu, ela af otanu gaal imahem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on peut dire que il y a quelque chose de très intéressant qui est indiqué. L'homme a été créé de tselem elokim, à l'image. Il a des forces d'âme de deux types. Il y a le dat, le discernement, l'intelligence, et il y a le dimayon, il y a l'imagination. La puissance imaginative, si vous voulez, qui s'exprime effectivement dans les rites, dans les cérémonies, dans les symboles, etc., ce sont des choses absolument fondamentales qui influencent l'homme. Et si effectivement l'imagination peut nous tromper, elle peut nous amener à des choses complètement folles, qui sont qui sont idolâtrées, quoi, par exemple. Alors, bien entendu, l'homme doit faire prévaloir son dat, son discernement, sur éventuellement la faculté imaginative, mais elle est aussi nécessaire. Donc maintenant, cette faculté, justement, elle est susceptible d'élever l'homme à des niveaux où l'esprit ou la rationalité pure ne pourrait pas l'amener. Shlomo HaMelech, il dit dans Michelet, « Shelo matzalahem achacham kli bitui, ela ba'atifat melitzat hamashal. » Il explique pourquoi il a passé par les proverbes, par des meshalim, par des paraboles. Il dit parce que je n'ai pas réussi à dire les choses comme je voulais les dire, simplement avec le dat, avec le discernement, avec l'intelligence. J'ai dû utiliser la faculté imaginative qu'il y a dans les proverbes. Et on dit de Shir HaShirim qu'il est Kodesh Kodashim. C'est-à-dire, évidemment, que il ne faut pas du tout prendre à la lettre le texte, mais que Beyad Adam Anvim Adamé, ça veut dire Hachem dit lui-même, les prophètes ils vont me représenter, ils vont me faire connaître, ils vont aider à ce qu'on m'imagine, en fait. Il y a beaucoup d'alachot qui sont effectivement basés là-dessus. Par exemple, il y a une halakha qui dit « Aroé makom shenasu bo nissim l'Israël ». Si quelqu'un voit un lieu où Akadosh Baruch Hu a fait des miracles pour le clan Israël, il y a une bracha. « Baruch she'asa nes la'avoteinu b'makom hazé ». Alors évidemment, la puissance du miracle qui a eu lieu, il est attaché à cet endroit-là, mais bon, c'est un lieu qui est comme un peu le temps, comme nous aussi on considère que Pessah, c'est le temps où on revient la situation dans laquelle on était quand, au premier Pessah, à Shavuot, on se retrouve dans la situation de Matan Torah, etc. Et donc, il y a une kedusha du makom, il y a une sainteté du lieu, comme il y a une sainteté du temps. Et donc, on trouve, par exemple, un bat kol qui annonce, avant la naissance de quelqu'un, qui dit ce chant-là, il appartiendra ou il appartient à tel et tel. De la même manière qu'elle dit que Bat Ploni le Ploni, qu'on dit, il y a une annonce de Bat Kol qui dit la fille de Trucmuche, elle se mariera avec Machin Chouette. Ouais, les noms ils sont changés, hein. Faut pas qu'on puisse les reconnaître. Véa et même le Nes lui-même, le Mekomo Yakirenu, ça veut dire. Quand l'homme arrive à cet endroit-là, où il y a eu ce Nes, il y a eu un flux donc, qui a amené ce Nes, et donc c'est comme si ce flux-là, il enveloppait la personne quand elle arrive là-bas, à nouveau. Et comme dit la Gemara, souvent on dit, lui il n'a pas vu, mais son mazal l'a vu. Quelque chose en lui a compris. Bon, c'est clair que Chazal n'ont pas fixé une bracha uniquement sur, sur le ressenti, sur l'éveil du cœur de l'homme au moment où il arrive à cet endroit-là, il se remémore le nest qui a eu lieu. C'est le fait que cet endroit-là élève l'homme de façon spirituelle, en fait. Et bon, ça c'est peut-être pas encore suffisant pour fixer une bracha. Comment se fait-il qu'on fasse une bracha sur cet endroit-là? Il faut dire que le lieu du Nes, en plus de cette ambiance, de ce flux qui a eu lieu à ce moment-là, éveille en l'homme une faculté imaginative, en fait. Il se rappelle, il réalise, il vit éventuellement, concrètement, ce Nes qui a eu lieu à ce moment-là. Et donc, quelque part, ça éveille en lui une reconnaissance. En lui, il reconnaît quelque chose de ce qu'il a vécu. Et donc, quand il le mentionne, ça éveille son esprit et ça lui fait reconnaître celui qui a fait le Nes, celui qui a Miché Amar Veria Olam, comme on dit, celui qui a, par la parole duquel le monde a eu lieu. Son cœur se met en mouvement en quelque sorte à ce moment-là, même si on est à très grande distance du point de vue du temps et qu'on vient d'un endroit où... Mais là, quand on arrive à cet endroit-là, c'est comme si on le revivait de nouveau. C'est pour ça que Chazal disent que c'est cette représentation en lui, c'est ça qui fait qu'on a décidé de faire une bracha. Et la halakha, elle est dans les nérodes de Hanouka, que même celui qui n'a pas allumé les nérodes de Hanouka, mais qui a vu les nérodes de Hanouka, il fait la bracha de Chez Asanissim, la beauté, nous voyons, Imaim, Basmanazé. C'est mitzvah qu'il faut faire à ce moment-là. Donc c'est parce que cette mitzvah-là, le voir est suffisant pour éveiller la faculté imaginative, etc. Et grâce à ce qui se joue en lui, alors il peut faire la bracha. Donc quand nous sommes assis au Seder et qu'on est en train de raconter la sortie d'Égypte, il est clair que on doit jouer en quelque sorte, ou faire jouer cette faculté imaginative, en fait. Il faut arriver à se mettre dans l'esprit de la Géoula. C'est-à-dire, c'est ça cette obligation, « Chayav Adam le harot atzmo keilu yasa atam mitzrayim ». C'est plus facile, comme dit le Rambam. C'est plus facile de... Voilà, je vais utiliser justement des gestes, éventuellement un dialogue, etc., pour me mettre dans cette ambiance-là, pour faire keilou, comme si maintenant je sortais d'Égypte. Ça, c'est le lien entre le début et la fin de ce qui est dit là, Kol Dor Vador Chayav, et puis Lo Et Avoteinu Bilvad, que nous aussi nous a sorti, c'est-à-dire nous avons l'obligation de faire en sorte que cette libération laisse une trace en nous. Et pour ce faire, on utilise justement le harot atzmo. Il faut manifester, se manifester comme si. On comprend effectivement mieux aussi le vav dont je vous ai parlé, qui est au début du texte dans le Rambam, mais pas chez nous, pas chez les Ashkenazim. Ou bechol dor vador chayav adam leharot et atzmo. Ce vav de liaison, en fait, qu'il a mis au début du texte, il montre évidemment qu'on est lié avec ce qui a été dit juste avant. Mais qu'est-ce qui a été dit juste avant? Ce qui a été juste avant, c'est ce que Rabban Gamliel a enseigné. On a l'obligation de mentionner les mitzvot de la nuit, le Pesach Matzah Umaror, et d'en donner les raisons. Ça, ça fait partie. C'est ce qui va nous permettre de Ubechol Dor Vador Chayav Adam. Parce qu'une fois que tu as dit ça, tu t'es mis dans l'ambiance de ces mitzvot de la nuit. Les mitzvot, elles reflètent toujours les raisons pour lesquelles la mitzvah a eu lieu, en fait. Mais c'est pas toujours évident, mais... Ce que dit Rabban Gamliel, c'est que ces mitzvot-là de Pessah, qu'il faut dire Pessah, Matzah ou Maror, ces mitzvot-là, on va les faire, c'est les mitzvot qu'Hachem nous a ordonné de faire ce soir-là, mais en plus, elles ont une valeur de edut, de témoignage. Et ça, on témoigne avec ces mitzvot-là de la sortie d'Égypte, de la libération, dans Pessah, dans Matzah et dans Maror. C'est que la Geoula, en fait, c'est vrai, n'est pas la première raison de ces mitzvot. Au contraire, on peut dire l'essentiel, on peut dire que comme l'essentiel, on est sorti d'Égypte pour cela. Donc ce n'est pas l'essentiel, c'est la sortie d'Égypte. Et... Déjà les Makot sont présentées comme ça. Où Hachem dit à Moshe Rabbeinu, pour quelle raison est-ce que je fais tous ces Makot là? Le man te s'appère pour que tu les racontes. Les choses sont à l'envers de ce qu'on croit. Nous pensons que Hachem a fait des choses et nous les racontons parce qu'il les a faites. Mais la Torah elle-même dit autrement. La Torah dit, c'est pas que je te dis de raconter ce que j'ai fait. Je ne l'ai fait que pour que tu racontes. Le ma'an te s'appelle afin que tu racontes. Vous entendez bien, c'est pas du tout... Ce qu'on pense d'habitude, voilà, il y a eu des... On raconte la sortie d'Égypte. À la limite, on pourrait presque dire que l'important, c'est pas la sortie d'Égypte, c'est le récit qu'on en fait. Quand j'étais plus jeune, je me demandais, finalement, supposer que quelqu'un ait la possibilité de faire en sorte que tout le clan d'Israël soit victime d'une hallucination collective. Et que dans cette hallucination collective, on leur raconte, on implante qu'on est sorti d'Égypte, qu'on a été esclave et qu'on est sorti d'Égypte. Et qu'ensuite, quand les gens vont se réveiller, ben ils vont le raconter parce que... Alors, est-ce que finalement, on n'arrivera peut-être pas... C'est la même chose, au fond. D'après ça, peu importe que ça ait lieu ou que ça n'ait pas lieu, est-ce que l'important, c'est le récit qu'on va en faire? Alors, ce qui ne va pas, c'est qu'on ne peut pas raconter quelque chose de mensonger. D'accord. Alors maintenant, le problème de la vérité, vous savez, c'est un gros problème. On ne va pas entrer dans ce problème-là. Maintenant, est-ce que c'est plus vrai si c'est une hallucination collective ou bien une vérité, etc. Tout ça, c'est, bon, quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Donc, ça a eu lieu, je ne voulais pas remettre ça en cause. Je veux seulement me dire que, si j'ai bien compris... D'accord ? L'important, c'est le récit. Et que les choses n'ont eu lieu que pour qu'on puisse les raconter. C'est pas comme le soldat qui raconte sa guerre. La guerre, elle n'a pas eu lieu pour qu'on la raconte. Il y a eu la guerre, et puis ensuite, tu le racontes. Mais si on voulait traiter la guerre comme Hachem a dit qu'il fallait traiter ce qui s'est passé en Mitzrayim, on aurait dû dire, la guerre n'a eu lieu que pour qu'on la raconte. On est dans un autre monde, n'est-ce pas, où les choses ne sont pas... C'est pas la réalité qui est fondamentale, c'est le récit qu'on va pouvoir en faire. C'est-à-dire, nous sommes un peuple du récit. On est construit sur le récit. Oui. Ben, ça c'est aujourd'hui qu'on dit ça.
Aujourd'hui, mais alors là, le récit, c'est pour qu'on puisse revivre en fait.
Oui, non, c'est clair que la guerre, c'est pas la même chose. Mais je voulais juste essayer de montrer que c'est pas du tout ce qu'on vit, c'est contre-intuitif complètement, je veux dire. Donc cette soirée de la sortie d'Égypte, raconter la sortie d'Égypte, ça. Ça fausse la chose, on a l'impression qu'on raconte la sortie d'Égypte. Mais c'est pas ça. La sortie d'Égypte, d'une certaine manière, n'a eu lieu que pour qu'on puisse la raconter. C'est vraiment le contraire de ce à quoi on pense d'habitude. Ça, donc l'important, c'est que c'est notre récit qui nous constitue comme peuple étant sortis d'Égypte, à la limite. Le fait que ça a déjà eu lieu, c'est, ça n'a pas d'importance, parce que si on ne le racontait pas, on l'aurait oublié depuis longtemps.
Et pour faire un nouveau parallèle avec ce que vous disiez sur l'homme qui a fait la guerre, c'est quelque chose, on sait très bien que ces gens racontent ça, que nous, on reste étrangers au pays. Alors que là, tout le monde participe, y compris les enfants, y compris. On est dans une action et pas dans.
C'est fermé ici, il faut faire le tour. Ici. On tombe dans le poisson. Pardon ? Et la Bible. Non, non, ça c'est parce que toute la sortie d'Égypte, c'est ce qu'on, je crois que j'avais dit ça au premier shiur qu'on a fait, le récit d'Avadim Aïnou, le pharaon de Mitzrayim, qui pour Rambam se termine par, comme il dit, le Shevar qu'on dit à ce moment-là, c'est les Nissim, Niflaot, Hashem a fait, et Cheruteinu, le fait que nous ayons été libérés. On avait parlé assez longuement sur le fait que la libération d'alors n'est pas la vraie libération. Le Cherout, c'est Cherout à la Luchot, c'est celui de Shavuot. D'accord ? Et celui-là, c'est seulement un moyen pour pouvoir devenir... il fallait justement se libérer de Pharaon pour devenir Eved d'Hachem. C'est une condition sine qua non, effectivement. Mais c'est pas la fin des choses. C'est pour ça que on avait dit que Boris Kirov disait que c'est pas vrai que le Sheva, enfin, le Rambam le dit, mais il n'est pas d'accord. Le Rambam dit qu'il y a un Sheva propre, il y a une louange propre de Avadim Ayinu, comme il y a une louange propre de Mitrila Ovde Avodazara ou Avoteinu, mais le Rov disait, Boris Kirov disait, mais la seule louange, c'est Varshav Kervanu Amakom Leonavodato. Hachem nous a maintenant approchés de lui, comme le Rambam le dit, de l'Ichudo, de son Yichud, etc. On est devenu le peuple d'Hachem, etc. C'est ça le Shevar, y compris de celui d'Avadim Ayinu. Simplement, il est décalé, parce que, justement, on est sorti d'Égypte, on s'est retrouvé libre, c'est-à-dire ne dépendant plus de Paro. C'est-à-dire, essentiellement, le fait qu'on ne dépende plus de Paro, qu'on soit plus esclave de Paro, c'est uniquement pour pouvoir devenir Eved d'Hachem. C'est ça l'important. le fait qu'on soit libre, c'est pas important, puisqu'on n'est pas vraiment libre tant qu'on n'a pas accepté la Torah, qui est effectivement le charut al haluchot, le charut al haluchot. Donc c'est ça que, en fait, Rabban Gamliel veut nous dire. On doit reconnaître ces mitzvot de la nuit, avec leur raison, avec les raisons, qu'on dit Pesach al-Shumma, Matzah al-Shumma, etc. Pourquoi ? C'est un yosod dans notre obligation, qui est quoi ? C'est un fondement pour pouvoir se voir comme sorti d'Égypte à ce moment-là. Mais en fait, si je regarde les paroles de Rabbi Gamliel qui nous dit qu'il faut parler sur ces mitzvot, on pourrait dire, mais qu'est-ce que j'ai besoin de parler ? D'abord, c'est comme si on aurait pu imaginer, je raconte, et à un moment, on arrête de raconter, et on va manger. Et on va faire les mitzvot de la nuit, les Pessah, Matzah, Omaror. Alors, c'est pas ça qui veut dire. Que, en plus du fait qu'on fait les mitzvot qu'Hachem nous a prescrites, mais ces mitzvot aussi, elles sont une expression, comme on a vu, c'est un témoignage. Témoignage de cette sortie extraordinaire de l'esclavage, que, comme on a vu, que, bien que la Geoula ne soit pas la cause première de ces mitzvot, au contraire, on est sorti d'Égypte uniquement pour pouvoir faire ces mitzvot, de nouveau. Comme c'est marqué, Vigatal vincha bayom ahu lemor, bavur ze, asa Hashem li, Hashem m'a fait ce qu'il a fait, bavur ze. Ze, on a dit, ze, c'est ce qu'on peut montrer du doigt, c'est-à-dire, Pesach Matzah Omaror. Bavur sheakayem mitzvotav, Kogon Pesach Matzah Umaror ala. C'est Rashi qui ramène ça. La Torah, qui est une Torah qui existe avant le monde, et à plus forte raison que donc ces mitzvot en tant que telles, elles existent avant la Geoula, puisqu'elles sont des mitzvot de manger le Kogon Pesach, c'est avant la Geoula. Si vous voulez le rendre un peu plus concret, on sait bien qu'Abraham Avinu, lui aussi, il a fait ses mitzvot, puisqu'il a fait toutes les mitzvot. Mais Abraham Avinu, il n'était pas, il n'avait pas eu la Geoula, donc lui, il fait les mitzvot. Mais après qu'il y ait eu tous ces nissim de la Geoula, alors maintenant, les mitzvot qui existaient auparavant, elles ont pris une coloration différente, une surinterprétation. C'était déjà des mitzvot qu'Hachem nous avait donné avec des raisons, d'accord, qu'on avait expliqué en son temps pourquoi Abraham Avinu faisait le Korban Pessah, vous vous souvenez, et les matzot, etc. C'était le Yichud d'Hachem essentiellement. Et alors maintenant, jusque-là, c'est ça que ça avait, c'était ça le sens du Korban Pessah et des mitzvot. Et maintenant qu'il y a eu la Geoula, alors ces mitzvot, elles ont encore une autre fonction, elles fonctionnent comme edut, elles fonctionnent comme témoignage. Témoignage de la Geoula. Et c'est pour ça que Rabban Gamliel dit, Al-Shumma, tout à coup il nous dit, mais pourquoi on mange ces choses-là, sur ces mitzvot? Et il ramène tout ça, ces mitzvot, à la Geoula. Bon, bien sûr que Avraham Avinu, il n'a pas pu, il mangeait pas le Korban Pessah parce qu'à un jour, il a passé par-dessus les maisons des Bnei Israël en Égypte. Donc, si tu demandes pourquoi on mange la mitzvah, on mange le Korban Pessah ou la matzah, etc. Au temps d'Abraham Avinu, cette mitzvah, elle est comme toutes les autres mitzvahs, elle avait certainement une raison, d'accord, on peut même, je peux même dire quelle raison c'était, mais Maintenant, c'est devenu un témoignage sur la Géoula, en plus. Et l'interprétation que donne Rabban Gamliel, et qui est celle que nous disons dans la Haggadah, c'est celle du témoignage, et pas l'interprétation. C'est pour ça qu'on ne dit pas ce pourquoi Abraham a voulu manger le pain de Pessah. D'accord ? Nous, on aurait dû dire Pessah she'anu achlim al-shum ma, al-shum yichud Hashem. Parce qu'on veut manifester le yichud Hashem. C'est pour ça que moi, Abraham a voulu manger. Mais on ne dit pas ça. On dit autre chose. Alors, j'avais déjà expliqué que l'autre chose qu'on dit, ce n'est pas tellement loin. D'accord ? C'est simplement comme si on avait un habillage historique de ce Yichud d'Hachem. Si vous voulez, c'est bien sûr que quand Hachem saute par-dessus les maisons d'Ebné Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste la singularité d'Israël. Or, nous savons bien que manifester la singularité d'Israël pour Hachem, c'est ce qui correspond pour l'Ebné Israël de manifester la singularité d'Hachem. Vous vous souvenez, on avait dit que ça, on l'apprenait des tfilines qu'Hachem met. La Gemara, elle dit qu'Hachem met les tfilines, et la Gemara, elle demande, mais qu'est-ce qui est dit dans les tfilines d'Hachem? Eh bien, on dit, dans les tfilines d'Hachem, il est dit ce que nous disons, nous, à Mincha de Shabbat, « Mi ki amcha Israël, goy echad ba'aretz. » Qui est comme ton peuple, « Mi ki amcha Israël, comme ton peuple Israël, un peuple unique, singulier, totalement singulier. » Donc Hachem proclame la singularité d'Israël. Et nous, qu'est-ce qu'on dit dans notre filin? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est la même chose. Nous disons sur Hachem et Hachem dit sur nous. C'est la même idée. Donc c'est pas tellement loin. Mais on dit pas ça, nous. Quand on dit Al-Shumma, on parle pas du tout de cela. On parle que du côté Geoula parce que dans le récit de la Haggadah, le rôle de ce discours sur la mitzvah, c'est un discours qui fait partie de la Haggadah, donc qui vient un témoignage dans le sens de l'existence de cette Geoula, et qui sert d'introduction. Vous vous souvenez, on a dit pour Rambam, il dit Pessah Matzah au Maror qu'on mange al Shumma, puis après il dit Ubechol Dor Vador, et on a compris que Ubechol Dor Vador c'était la suite de ce Rabbi Gamliel. Donc ça nous aide à nous imaginer, à nous voir comme étant sortis d'Égypte. Et d'après le Rambam, comme pour le Rambam, il ne s'agit pas simplement de quelque chose dans la tête, mais de concrètement le manifester. Donc j'ai déjà manifesté. On a manifesté en mangeant on n'a pas encore mangé, mais en parlant de ce qu'on va, des trois mitzvot de Pessah, Matzah ou Maror. Et ça, c'est l'introduction à Ubechol Dor Vador, et comme la suite de cela, c'est que dans chaque génération, comme on l'a manifesté, on doit se considérer comme sortant d'Égypte. C'est ce que cette édoute, en fait, ce témoignage-là. Et donc, c'est pour ça qu'on termine en disant que cette Torah édoute, ce témoignage-là, il est à la base du Leharot et Tatsmo, de se considérer comme si on était sorti des... Enfin, Keilu hu Atzmo yatsa mimitzrayim, et le Rambam dit Keilu hu yatsa ata, maintenant, comme s'il venait de sortir maintenant. C'est Keilu, on sait bien que c'est Keilu. Chez Mitoch, parce que nous accomplissons ces mitzvot en tant que témoignage de la Geoula, alors, en faisant ça, on fait entrer en nous quelque chose de la Geoula. On essaie de vivre quelque chose de la Geoula en parlant de ce qu'on va manger. Et que c'est parce que nous ne sommes pas capables de le faire Hachem nous a donné une version historique de l'affaire. C'est-à-dire, on va nous raconter l'histoire historique, enfin l'histoire de façon, ça c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus facile, disons, bien que ce soit aussi extrêmement difficile à nous, pour nous de comprendre. Il reste des morceaux incompréhensibles, par exemple, comment est-ce que nous sommes sortis de Mitzrayim, ça on ne le sait pas. Mais la Haggadah elle-même le dit que c'est Hachem, donc ça veut dire qu'il ne saura pas, il faut savoir. Mais pour le reste, par exemple, justement, en disant que ces mitzvot, les trois mitzvot en question, on les habille d'histoire, c'est-à-dire passer par-dessus les maisons, que la pâte, elle n'a pas eu le temps de monter, et que les Maror, ils ont rendu la vie amère. Ok, ça c'est, bon, c'est quelque chose. Malheureusement, on peut, bon, à part le fait de sauter par-dessus les maisons, on n'a plus le Coran Pessah, mais la Matzah comme. La Matzah et le Maror, bon, on peut le comprendre. C'est des explications concrètes, un peu, peut-être même un peu trop concrètes. D'accord ? Parce qu'on n'a pas très bien. On a du mal à comprendre pourquoi la pâte, qu'est-ce que c'est que cette histoire, que la pâte n'a pas eu le temps de monter, là. Ça a commencé plus tôt, je ne sais pas ce que ça veut dire.
C'est ça qui est étrange, c'est qu'on rentre dans le monde d'Hachem par de la nourriture.
Il ne faut pas dire seulement de la nourriture, c'est par toute une geste, parce que on mange à couder, qui embête tout le monde, je veux dire, je ne sais pas qui aujourd'hui prend beaucoup de plaisir à manger, à couder, etc. Je ne sais pas, je ne connais pas si vous prenez un plaisir particulier, mais bon, c'est ennuyeux, quoi. En plus, c'est difficile. Comment tu fais avec une coupe de vin, là, il faut arriver. Bon, c'est déjà super extraordinaire quand elle arrive la rue entière jusqu'à la bouche. C'est déjà. D'accord, c'est bon. Comme on ne mange pas avec un scaphandre, c'est un peu un problème, quoi. Bon, mais c'est quand même du gestuel. Et puis en plus, si on fait comme Rambam, les harot et tasmo, c'est extraordinaire. C'est beaucoup plus. Ça, c'est vraiment parlant. Je veux dire, on fait. Bon, ça éveille l'imagination. En plus. Voilà.
Je suis désolée, je prends le téléphone. Il y a vraiment un truc que je ne comprends pas bien quand vous avez dit à propos de la. Vous seriez encore esclave des parents en Égypte. Il y a une chose que je ne comprends pas. On est d'accord que ce n'est pas concret, c'est qualitatif. On n'est plus les mêmes, on devient un bien d'Hachem, etc. Mais je ne comprends pas en quoi on a besoin d'une déclaration de parents en ce sens. Paro n'a aucune légitimité. La seule légitimité qu'un tyran a vis-à-vis de nous, c'est quand Hachem le lui permet comme à Rachel-Roche, comme à Nebrach-Netzah.
Mais tu as répondu à la question.
Mais Hachem lui enlève.
Mais non
lui enlève,
c'est non.
Que, non.
Les Israël sont en Égypte, chez Paro, parce qu'il devait aller là-bas. Paro, il avait tout à fait le droit de nous réduire en esclavage. Ce qu'il n'avait pas le droit de faire, c'est de nous torturer.
Tout à fait.
Donc il a parfaitement une légitimité de nous avoir comme esclaves.
Oui, mais jusqu'au moment où justement Hachem envoie Moshe Rabbeinu dire « Laisse mon peuple sortir. »
Mais oui, mais il n'est pas
sorti. Mais à ce moment-là, sa légitimité existe.
Laisse, on lui demande son avis. Laisse le peuple.
Mais en quoi la déclaration c'est. Il aurait pu le faire, s'il l'avait fait, il se serait soumis à Hachem. Il aurait reconnu quelque chose. Hachem vous dit qu'il reconnaît. Est-ce que ça veut dire, alors, est-ce que ce qu'il veut dire dans ce cas, que cette déclaration en a besoin pour qu'il y ait au moins une minute, une façon de, pour Paro de s'incliner devant la volonté d'Hachem?
Mais parce que qu'est-ce que c'est pour nous, c'est pour nous. C'est pas pour lui, c'est pour nous.
Mais justement, je ne comprends pas pourquoi.
Parce que il y a une réalité de l'être esclave qui fait qu'on appartient à son maître.
Et justement, au moment où Hachem nous libère, justement, vous allez comparer avec Rajverosh, mais Rajverosh, c'était justement ça. C'est que malgré tout ce qui s'était passé, concrètement, Hachem nous avait laissé au pouvoir de Rajverosh. Donc, concrètement, le
fait. Parce que Rajverosh, il n'avait pas. Rajverosh, il n'avait pas de légitimité, lui. Réelle. Parce qu'il était un usurpateur, de toute façon.
Oui, mais Hachem l'avait laissé usurper. Il n'y a pas une chose qui se passe comme ça. C'est bien fait, on pouvait dire, on est encore ces esclaves, et tant qu'il ne faisait pas cette déclaration. Mais là, Paro est obligé par Hachem de céder,
oui.
Donc Hachem lui a nié cette légitimité. Alors je comprends
non,
que si
non,
on disait
non,
que
c'est lui a dit, pour Paro, il est obligé, il est obligé, mais mon cher Rabbeinu lui apprend que ce que tu dois faire, c'est pas simplement baisser la tête parce que Moshe t'y oblige, mais tu dois reconnaître que les Bnei Israël ne sont plus tes esclaves.
Pour que plus jamais ils puissent être invoqués par un successeur de Paro, cette qualité d'esclavage.
Oui.
C'est cela qui me gêne. Qu'est-ce que ça nous fait ? Je veux dire, les catholiques disent qu'on n'a aucune légitimité depuis ceci, que c'est eux les légitimes, ça nous fait ni chaud ni froid ceci. Bon,
on a fini par le faire. Parce qu'ils n'ont jamais eu de légitimité. Paro, il est légitime.
Oui, mais
il a exagéré, mais il est
légitime.
Non, Hachem ne lui dit pas. Hachem lui dit laisse partir.
Donc c'est à cause
Let
de ça.
Let my people go. C'est ça qu'il lui a dit en anglais.
Oui, c'est vrai, c'est chante joliment d'ailleurs.
Mais voilà. D'accord. Mais c'est comme ça. C'est quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, je vais détruire les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu l'entend, je pourrais ne pas laisser. Laisse-moi, ça veut dire laisse les Bnei Israël, laisse-les partir.
Et s'il lui dit laisse partir, c'est pourquoi il veut que Paro. Et
c'est ça, laisser partir.
Pourquoi il voulait laisser ça, puisque ce n'est pas pour les Égyptiens, puisque ce n'est pas pour le monde qu'il laisse, et puisque Hachem
pourrait
nous exercer. Mais pourquoi nous ? Mais justement, nous,
parce
c'est nous égal.
Nous...
À partir du moment où grand chef dit petit chef n'a pas l'autorité, et
mais
qu'il
il a
dit.
Ça, c'est toi qui dis qu'il n'a pas l'autorité. Il a l'autorité.
Mais
jusqu'au
non,
moment.
Si le grand chef
mais c'est ça. Le grand chef lui dit tu dois déclarer que tu n'as plus l'autorité.
Je comprends pas, je me demande vraiment pourquoi. C'est comme donc le grand patron dit mes ouvriers, les ouvriers vont faire ceci ou cela. Il peut dire effectivement au contremaître vous signez une déclaration, vous faites ça. Mais vraiment, le grand maître s'est adressé directement aux ouvriers. Qu'est-ce que ça fait aux ouvriers que pourquoi le grand maître veut que le contremaître écrive cela? Puisque qu'est-ce que ça fait les ouvriers? Ils ont parlé avec le grand patron.
Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe et à Aaron. Il leur a dit, vous, surtout, n'humiliez pas Paro. Vous n'avez pas le droit. Il est tout à fait légitime. Vous devez le respecter. Vous n'avez pas le droit d'humilier Paro.
Ah, alors, peut-être, alors, ça voudrait que finalement, c'est pour faire comprendre aux Bnei Israël que tout. Alors, est-ce que ça pourrait. C'est juste pour arriver à le comprendre, moi. Est-ce que, égoïstement, je sais pas, mais est-ce que ce serait pour que, justement, toujours, dans toute notre histoire, jamais on ait la tentation de se dire il y a eu un hasard qui a fait qu'on était esclaves, et heureusement, Hachem nous a sauvés. Dire que le même Akadosh qui nous a mis esclaves, il nous a délivrés. Donc, il y a une sorte de parallélisme. Il avait rendu Paro légitime, et donc il a dit à Paro, je reconnais que je ne suis plus légitime. Et alors, finalement, c'est pour nous empêcher de nous dire, c'était une occurrence, l'esclavage, et ensuite, eh bien, Hachem nous en a sorti. Pour bien mettre une espèce de parallélisme des formes, pour dire.
C'est vrai, mais je ne sais pas si c'est pour ça.
C'est ma seule façon d'arriver à comprendre. Merci beaucoup.
Gracias.